Bien, on continue ce qu'on avait commencé. On avait vu à partir de ce piyout du deuxième jour de Shavuot qu'Adam HaRishon n'avait pas la Torah. Et on s'était interrogé sur ce que la Torah pouvait encore apporter à Adam HaRishon avant la faute. La Torah, elle ne voulait pas aller chez Adam HaRishon parce que, à cause de la... Elle savait qu'il allait faire la faute, donc. Mais donc, s'il avait passé avec succès l'épreuve, Adam HaRishon, c'est machma qu'à ce moment-là, la Torah, elle serait allée chez lui. La Torah aurait accepté d'être donnée à Adam HaRishon. Le Ramchal, il explique dans Dat Tvunot que Im Adam HaRishon haya omed benisayon, si Adam HaRishon avait tenu le coup dans son épreuve, haya ze tikkun haolam, ça aurait été le tikkun du monde, on aurait réparé complètement le monde, c'est-à-dire kol ha'amal, tout le travail qu'on doit faire, tous les efforts qui doivent être faits, dans la guerre contre le Yetzer Hara durant les 6000 ans, il pouvait nous en faire faire l'économie en une seconde, Adam HaRishon, c'est-à-dire en tout dans son Nisayon. Il était créé Erev Shabbat assez tard, dans l'après-midi. S'il avait tenu jusqu'à Shabbat, il serait entré dans Shabbat et le monde était... C'était fini en or. Le tikkun était fait. Il est créé avec un défaut. Et tous les problèmes, le tikkun du monde, il se fait dès lors qu'on reconnaît dans le monde, il y a un homme qui reconnaît Hachem. Donc s'il reconnaît et qui se plie à sa loi. Si Adam HaRishon avait reconnu Hachem au sens de se plier à la loi, c'est la loi qui lui était donnée, il y avait une mitzvah de l'Ovdo, le Shomro, donc l'interdit de manger de l'Etz Hadat Tovara, c'était fait, c'était tout ce qu'on lui demandait. Donc immédiatement, on aurait été dans ce qu'on appelle Achrit HaYamim, la fin des temps, etc. Donc on aurait été Biyat HaGoel, immédiatement, on est en temps messianique. Et en plus, Adam HaRishon était à ce moment-là immortel, et il serait resté immortel. Donc il n'y aurait pas eu la mort dans le monde. Merci. La mort n'aurait pas existé. Donc on aurait été dans la phase triatametim.
Excusez-moi, franchement, je ne comprends pas. Parce qu'on dit d'un autre côté que Adam réunissait toutes les neshamot
de l'humanité. Donc s'il avait fait tout ce qu'il fallait, c'est comme si toute l'humanité avait fait tout ce qu'elle avait à faire.
Le monde, en fait, aurait été créé que pour Adam.
Mais qui était l'humanité? Ce serait fait, c'est tout. Le problème est...
Ça aurait
duré une seconde, quelques secondes, quelques minutes, si vous préférez, jusqu'à Shabbat. Jusqu'à entrer dans Shabbat. Shabbat, c'est comme ce sera, étant messianique, et qui de la vaut.
Donc en fait, Hachem aurait...
Tout Olam Hazeh aurait été concentré dans ces quelques minutes. Mashma du piyout qu'on a lu ici, qu'à ce moment-là, la Torah aurait accepté d'être donnée à Adam. La question qui se pose, et c'est à notre grand étonnement, mais qu'est-ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'il pouvait faire de la Torah à ce moment-là? Tout est déjà joué, on n'a plus besoin de la Torah. Dans la situation de Triat HaMetim, on n'a plus besoin de la Torah. Nous, on comprend que Anuskukim la Torah, on a besoin de la Torah, parce qu'il y a un Yetzerara, que on sait bien que contre ce Yetzerara, il n'y a pas d'autre tavlin que la Torah, il n'y a pas d'autre épice susceptible de le rendre comestible, ce Yetzerara, puisqu'on doit servir Hachem Mishnecha avec le Yetzerator et le Yetzerara. Mais comment on peut le servir avec le Yetzerara? Ben, grâce à la Torah va nous dire comment on utilise le Yetzerara. Il ne s'agit pas de l'éradiquer, il s'agit de l'utiliser. Ce que je vous raconte toujours, là, le seul que je connais un petit peu, c'est le Rabbi Eliezer dans Maseret Souka. Lui, il pense qu'on doit faire tout Soukot dans la même Souka, Rabbi Eliezer. Il n'aime pas que les gens se baladent à Soukot et qu'ils aient un jour dans la Souka à Paris, le lendemain ils vont dans la Souka à Sarcelles, après ils vont à la Souka à Créteil, et après ils vont à la Souka à Nice. D'accord. Donc, lui il voulait qu'on fasse tout. Alors il dit, « Meshabeach ani et ha'atzlanim, je fais l'éloge des paresseux qui, pour des raisons de paresse, ne bougent pas de chez eux et qui, de facto, vont accomplir la mitzvah telle que moi je l'entends. » Ils seront toujours dans la même souka. Pas parce qu'ils veulent... Pas par piété pour tenir compte de mon opinion, mais par paresse. Donc, du bon usage de la paresse. À Soukhot, restez chez vous. Comme ça, vous faites la halakha comme Rabbi Eliezer. La halakha n'est pas comme lui, hein. Vous pouvez vous promener. Zot haïta kshuvat Moshe Rabbeinu à Malachim. C'est même la réponse que Moshe Rabbeinu a dit aux Malachim, qui voulaient empêcher Moshe Rabbeinu de prendre la Torah. Ils leur ont dit, mais est-ce que vous avez un Yetzerara pour avoir besoin de la Torah? Vous, les anges, vous n'avez pas de Yetzerara, donc vous n'avez absolument aucune raison de garder la Torah. Nous, on a un Yetzerara, ça sert à quelque chose. Mais sur les Yomot HaMashiach, c'est marqué Vihigiu Shanim Asher Tomar En Libaem Chefetz. Arrivé des années dans lesquelles tu diras, je n'ai pas à leur sujet, ou en ce qui les concerne, je n'ai pas de désir. Elles ne sont pas désirables, et j'ai pas de désir. Et là-dessus, il y a un drasha, c'est un pasuk dans Kohelet, ce verset, et on dit, Elu yemot ha-mashiach she'en ba'em lo zchut ve'lo chova. Il s'agit de la période du Mashiach, période durant laquelle il n'y a ni mérite ni démérite. Parce qu'il n'y a pas d'Yetzerara, donc il n'y a pas de mérite à faire ce... Et donc il n'y a pas de mérite à faire ce qu'il faut faire, ni de démérite, puisqu'il n'y a pas d'Yetzerara. Vimken, si c'est comme ça, Ma'ala la Torah, Acharei Yemot HaMashiach. Ou Bematzav Shel Adam HaRishon, Lo Amad Benisayon. Donc si tu dis que si Adam HaRishon avait tenu le coup dans son épreuve, on aurait été dans les temps messianiques, alors qu'est-ce que la Torah peut lui apporter, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas de... On n'a plus besoin de la Torah au temps messianique. Après les temps messianiques en tout cas. Ici, on nous montre, dit le Rav Volbe, ici on nous montre le fait que la Torah... Elle concerne un éventail très très large de situations. Nous, ce qu'on dit sur la Torah, c'est qu'elle est profonde, qu'elle dit des choses extraordinaires, etc. Ici, on nous apprend que elle touche tous les niveaux. La Torah concerne tous les niveaux. C'est-à-dire, quand on est dans le niveau... On a un Yetzerara, alors on est quasiment dans la Torah nous concerne, donc la Torah concerne la prison dans laquelle il y a des meurtriers, des violeurs, etc. C'est de ça que la Torah a quelque chose à dire à tous ces gens-là. Dans cette situation-là, il n'y a pas d'autre tikkun que la Torah. Ensuite, après Acharei Yemot HaMashiach ou Triat HaMetim, Gam Sham Ein Lanu Ela Torah. Même après Triat HaMetim et d'abord Yemot HaMashiach, Triat HaMetim, là aussi on a besoin de Torah. Pourquoi? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Dans cette situation-là, le Piyout en question dit on a aussi besoin de Torah. Ça veut dire que la Torah, elle concerne tous les niveaux. Le niveau de Olam Hazeh tel qu'on le connaît, et aussi le niveau de Mashiach et Triat HaMetim, et au-delà. Avec ça, on comprend un peu mieux la suite des époques de la création. Dans la situation de Tov Vera, où le bien et le mal sont mélangés, dans la situation dans laquelle on est, les fameux 6000 ans, en Israël, ça l'interdit, Kol Avodat HaAdam, tout le travail de l'homme, Asher Avura Banu Laolam, qui est ce pourquoi nous sommes venus dans le monde, Ena Ela Milchemet HaYetzer. C'est la lutte contre le Yetzer Hara. Toute la Avoda, c'est se faire la guerre au Yetzer Hara. Il y a aussi une lecture de Kitetse la Milchama dans le Parchat Kitetse, Aloy Vecha, sorte que tu partiras en guerre contre ton ennemi, et l'ennemi, c'est le Yetzer Hara. Le Baal HaChovot Alvavot, Rabbi Rucham. Rabbi Rucham, il dit, Kol Hatzlachatenu, Aleadmut, toute notre réussite sur terre, c'est uniquement grâce, enfin, elle n'a lieu que parce qu'il y a un Yetzer Hara et parce que on peut faire la guerre contre ce Yetzer Hara. Et s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, disait Rabbi Rucham, on devrait l'inventer pour pouvoir lutter contre lui. Ou Hayetzer, ou Hino Akoach Adochef La Aliyah. En vérité, le Yetzer Hara, c'est la force qui pousse à s'élever. Le Kolak Dolim chez Itaalu, Ad Dargat Chafetzraim, Chazonish, etc. Ou les gens, donc tous les gens qui sont devenus grands, le Chafetzraim, le Chazonish, puis ensuite. Enfin, pas ensuite, mais et tous les gens d'avant, tous les Rishonim, les Tannaïm, enfin, jusqu'à Avram Avinu, tous ces gens qui sont devenus grands. Italut shelahem lo titachen bli Yitzram, ou bli milchamtam et Yitzram. Leur élévation, elle n'est purement pas possible s'ils n'ont pas de Yetzara et s'il n'y a pas de guerre, si eux ne partent pas en guerre contre le Yetzara. C'est ça qui les a fait grandir. Le fait qu'il y ait eu en eux un Yetzer Hara, c'est ça qui les a poussés à grandir dans la Torah. Pourquoi qui berati Yetzer Hara, berati Torah Tavlin? Ils ont compris que la Torah, c'était le Tavlin, le seul moyen de lutter contre le Yetzer Hara. Donc ils ont étudié la Torah quand ils ont pris conscience du Yetzer Hara qu'il y avait en eux. המשכיל מבין מתוך מציאות היצר לבד, celui qui réfléchit, il comprend du seul fait de l'existence du יצר, כי כל עצמו אינו טריפה לתורה. Parce qu'il existe, il ne peut être que ce qui pousse à la Torah. וגם אדם כמונו, et même un homme comme nous, il ne doit pas prendre peur lorsque le Yetzer Hara l'attaque. Il ne faut pas non plus, surtout, qu'il en vienne à penser à quoi bon tout ce travail sur la Torah, de toute manière, le Yetzer Hara, il vient et en 3 minutes, il m'a mis KO. Alors, Zehu Efecha Mechuvan, C'est exactement le contraire de ce qui est l'intention au niveau de la création. La présence, l'existence d'un état, elle ne doit pas du tout nous mener au yush, c'est-à-dire à désespérer, mais au contraire, elle doit nous pousser à grandir dans la Torah. Parce que le Yetzer Hara n'est que faim, Ephayem, Vetsama, et soif de Torah. Et si l'homme abandonne la Torah à cause du Yetzer Hara, le Yetzer Hara n'a rien gagné. C'est en fait ici que joue la Bechira. Ici joue la possibilité de choisir, c'est-à-dire de comprendre parfaitement ce dont il s'agit avec le Yetzer Hara, Veladat, et de savoir que, en vérité, le Yetzer Hara, essentiellement, il est cette faim et soif de Torah. Sauf que l'homme, avec la Bechira qu'il a, possibilité de choix qu'il a, il peut suivre le Yetzer Hara dans ses tentations et laisser libre cours à ses désirs, et en fait faire rater toute l'opération. Et le pourquoi, la raison d'être du Yetzer Hara. Il donne un exemple, avec l'exemple on comprend mieux. Vous avez un enfant, il n'a pas mangé son repas de midi. Alors, au bout d'un moment, après-midi, il a faim. Alors il vient chez sa mère et il dit, « Maman, donne-moi un bonbon. » Après, il vient, « Maman, donne-moi du chocolat. Maman, achète-moi une glace. Maman, achète-moi un soda. » La mère, elle sait très bien que cette situation-là, tout ce qu'il est en train de demander, il demande tout ça parce qu'il n'a pas mangé à midi, parce qu'il a faim. Mais l'enfant en lui-même, il n'en sait rien. L'enfant, il ressent simplement tout à coup une envie de quelque chose, une envie d'un bonbon, l'envie du chocolat, l'envie de ceci, etc. Mais il ne sait pas du tout que ça vient du fait qu'il n'a pas mangé à midi. Mais la faim, elle s'exprime par ces demandes, en quelque sorte secondaires, d'effets secondaires. Il a besoin de douceur, il a besoin... exprimer la faim de la façon convenable, de la vraie, pour ce qu'elle est vraiment, pour ça il faut être, c'est-à-dire pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait manger du pain et de la soupe, quoi. Pour ça il faut être adulte. L'enfant il n'en sait rien, et lui, pour lui, ce qu'il veut c'est des bonbons, etc. Il ne se rend pas compte qu'en réalité ce dont il a besoin, c'est de manger ce qu'il n'a pas mangé à midi. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Le Yetzer Hara, en réalité, il est une fin pour la Torah. Fin de Torah. Sauf que ça s'exprime comme la faim physique de l'enfant s'exprime par ses demandes de chocolat, de machin, un truc. Ça s'exprime dans la ta'ava pour toutes sortes de choses, toutes sortes de satisfactions, pour des désirs, pour les plaisirs de la chair, pour le kavod, etc. Et il faut être un Adam Gadol là aussi, il faut être adulte pour comprendre que quelle est la vraie forme de ce désir. En vérité, il s'agit uniquement et ce serait la seule chose qui pourrait rassasier le Yetzer Hara, c'est la Torah. Il a faim et soif de Torah. Et que sans Torah, il ne sera jamais rassasié. C'est ça que dit le Pasuk, « Im raev sonacha » si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Le pain en question, c'est l'achma shel Torah, le pain de la Torah. Et cette faim et cette soif de Torah, donc. Parce que c'est de ce pain de Torah, de cette Torah qu'il a faim. Le sonner, Raev sonacha, si ton ennemi a faim, l'ennemi en question c'est l'Yetzara. Les tzadikim dans toutes les générations, ils savent cela. Et quand le Yetzara les attaque, alors ils font toutes sortes d'efforts pour grandir dans la Torah. Ils comprennent que si on regarde ce que le Yetzara veut en vérité, c'est ça, c'est la Torah. Il n'y a que la Torah qui puisse le rassasier. Mais on est dans la période de la Bechira. On est dans la période où on peut choisir. L'homme peut choisir. Il peut suivre le Tavot Libo, Mamash, et avancer comme s'il était un prisonnier du Yetzera. Et tout le Srout de l'homme, c'est d'arriver à comprendre la vérité. Et à ce moment-là, le Yetzera l'aura poussé à la Torah. Alors, évidemment, ça paraît un peu paradoxal, le Yetzera pousse à la Torah. Mais regardez, quand le Yetzera, qui est le fameux ange qui a lutté contre Yaakov, quand il a vu que, quand Yaakov a gagné, il a dit à Yaakov, laisse-moi partir, je dois aller dire Shira. Il doit aller dire un cantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il devait dire Shira tout à coup, il se rappelle? Non, il avait fini sa tâche. La tâche du Yetzer Hara, c'est d'être vaincu. C'est d'être vaincu par Israël. D'accord? Donc, être vaincu par Israël, c'est-à-dire que Israël a compris comment on pouvait le faire taire, c'est-à-dire par la Torah. Seulement, il doit être vaincu, mais à la loyale, c'est-à-dire il faut qu'il se batte de toutes ses forces, le Yetzer Hara, pour essayer de faire tomber Israël. Mais sa réussite, c'est quand Israël l'aura vaincu. Mais il peut pas, il n'a pas le droit d'aider Israël. Il est là pour se battre contre Israël de toutes ses forces, et quand il a été vaincu par Israël, il en a fini, et il va dire Shira, ça veut dire, il retourne, dire voilà, la Shira c'est, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, c'est pourquoi Hachem avait envoyé les Yetzer Hara sur terre pour lutter contre Yaakov, sous la forme de l'ange d'Esav, etc., peu importe, pour lutter contre Yaakov, et pour être vaincu par lui. Mais il a lutté de toutes ses forces. Il a mobilisé toutes ses énergies pour lutter contre Israël. Et s'il avait gagné, en vérité, ça voudrait dire que, bon, ben, finalement, il n'a pas réussi à... sa mission n'est pas finie. Il va falloir attendre qu'Israël le réattaque, ou que lui attaque Israël, sur un autre domaine, par exemple, et jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Mais il a fini son job dès lors qu'Israël l'a vaincu. Donc, en fait, qu'il veut, lui, le Yetzara. Le Yetzara, c'est une créature d'Hachem. Exactement comme toutes les, comme tous les anges, si vous voulez, c'est comme tous les êtres spirituels et tout ce qu'il veut, ce que vous voulez, c'est une créature d'Hachem. Toutes les créatures d'Hachem sont là, dans le monde, pour que l'homme reconnaisse Hachem. Les créatures qui, elles, ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'Hachem leur demande, n'ont pas de choix, eux, ils n'ont pas de Bechira, mais c'est, ils doivent faire en sorte, aider à la reconnaissance d'Hachem par l'homme. Alors comment est-ce qu'ils le font? Ben, voilà, ils vont faire en sorte que l'homme triomphe des épreuves et fasse reconnaître, et reconnaisse et fasse reconnaître Hachem dans le monde, comme étant le roi dans le monde. Comment est-ce qu'Hachem peut être reconnu comme étant le roi dans le monde? Ben, évidemment, lorsque Akadosh Baruch Hu est reconnu, ça veut dire lorsqu'on obéit ou alors lorsqu'on désobéit et qu'on est sanctionné. Du point de vue d'Hachem, il n'y a pas de différence. Peu importe. Il est reconnu de toute façon. Mais voilà, ça c'est la période de Bechira, où on doit choisir entre le bien et le mal. Samouch, l'Imot HaMashiach. Dans le voisinage immédiat de l'Imot HaMashiach, Yitgaber Arav, la Torah, al kol klal Israël. Tout le klal Israël, à ce moment-là, il aura soif et faim de Torah. Et c'est ça le mehalech, c'est tout le cheminement des 6000 ans qui naît parce que shlitat ara tiye mufrechet mina. Les 6000 ans, c'est pour que on en arrive à comprendre que le pouvoir du mal est un faux pouvoir en fait. Il ne peut rien, il n'a aucune puissance. Tous vont reconnaître que ce que le mal construit, ça n'est en fait qu'une destruction. Il n'y a pas de construction par le mal. C'est à terme, on voit que c'est une destruction. Sans Torah, sans le Créateur, on ne peut rien construire dans le monde. On ne peut pas vivre une vie de vrai bonheur. Et ça, cette reconnaissance-là, elle va se dévoiler petit à petit à l'époque de ce qu'on appelle l'Ikvita de Mishicha, les pas du Mashiach, les talons de Mashiach. Au point que tout le monde voudra effectivement reconnaître cela, et tout le monde va le reconnaître clairement. Peut-être que par le récha, par le mal, par l'éloignement du Créateur, tous les essais de construction mènent à exactement son contraire. Parce qu'on verra qu'effectivement le mal n'a aucun pouvoir, il n'a aucune valeur. Et c'est ce qu'en fait le dit le Rambam dans Pirush HaMishnayot sur Sanhedrin. Il parle là-bas du chidouche de la smicha. Depuis Moshe Rabbeinu Hashem lui a dit: tu vas donner de ton hod, de ta splendeur à Yoshua. Mets les mains de Yoshua et transmets-lui en quelque sorte ta grandeur, enfin de ta grandeur, de ta splendeur. Et ensuite, chaque fois, un maître va mettre les mains sur son élève, ça s'appelle la smicha, il va s'appuyer sur lui, parce que ça veut dire, le maître lui dit, désormais on peut s'appuyer sur toi. Moi je m'appuie sur toi, donc les gens qui s'appuient sur moi vont pouvoir s'appuyer sur toi. Je te fais confiance en quelque sorte. Tu es digne de confiance, on peut s'appuyer sur toi. Ça s'appelle la smicha. Comme vous savez, La smicha, elle a, voilà, les chachamim se sont transmis justement ce pouvoir jusqu'à ce qu'à l'époque des Romains, à un moment donné, les Romains ont interdit la smicha et ils ont poursuivi et mis à mort les chachamim qui faisaient la smicha. Il y a un dernier qui a fait la smicha, puis ensuite il s'est enfui, etc. Bon. Finalement, il y a eu rupture de la smicha. Et toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce que quelqu'un peut commencer la chaîne? Quelqu'un qui n'a pas reçu la smicha, évidemment, dire voilà, moi, je donne la smicha à mon élève. Et la chaîne recommence. Il y avait une machloquette, à peu près à l'époque du Arizal, du Beit Yosef, de Rabbi Yosef Karo, entre Tzfat et Yerushalayim. À Tzfat, on voulait faire la smicha, et à Yerushalayim, on ne voulait pas. Finalement, c'est Yerushalayim qui a gagné. On a arrêté de faire la smicha. Ce qu'on fait aujourd'hui, les smichat pour les rabbins, c'est une espèce d'examen de passage, mais il n'y a plus. Ça ne donne pas de pouvoir. Et les rabbanim, les dayanim qui n'ont pas reçu la smicha, pratiquement ils ne peuvent pas juger. Ils ne jugent que des questions archi-courantes, c'est-à-dire le commun, quoi. Mais ils ne peuvent pas mettre d'amende, ils ne peuvent pas frapper, ils ne peuvent pas condamner. Il n'y a pas de pénal. Ils n'ont pas le pouvoir. Dans le Sanhedrin, tous les gens qui composaient le Sanhedrin avaient reçu la smicha. Alors, cette idée qu'on puisse recommencer, si vous voulez, on raconte que le Maguide de Meserich, c'est le grand élève du Baal Shem Tov, un jour la maison de sa mère, de ses parents, de sa mère a brûlé. Et sa mère se désolait énormément. Et il lui a dit, pourquoi tu te désoles? C'est des biens matériels, qu'est-ce que... C'est rien. Il lui a dit, je ne me désole pas à cause de ça, je me désole parce qu'on avait un shtar yichus, on avait un document, un arbre généalogique qui remontait jusqu'à David HaMelech. Et il a brûlé, on n'a plus. Alors le Maguide de Meserich lui a dit, c'est pas grave, on recommencera avec moi. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut commencer la smicha?
Ça veut dire que les gens s'affaident et étaient pour la smicha.
Oui. Et un des seuls à avoir reçu la smicha, c'est Rabbi Yosef Karo. Et mon maître, Moshe Zichron Levracha, il m'a dit qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que le fait qu'il ait été reconnu dans le monde entier, c'est Shulchan Aruch. Est à voir avec le fait qu'il a reçu la smicha. Il n'était pas le seul, mais disons, en tout cas, lui, il avait reçu la smicha.
Est-ce que ça s'est poursuivi après?
Non, c'est parce que Yerushalayim était contre, alors ça, on en a arrêté. Alors le Rambam, dans une Bourcha Mishnayot, il écrit, dit, si tu ne dis pas recommencer la chaîne, de smicha. Quelqu'un peut commencer et dire, moi je donne la smicha à mon élève, il donnera à la suite, et on recommence. Si tu ne dis pas ça, alors, Iefchach et Timatse Bedin Agadol Leolam, on ne trouvera plus jamais le Sanhedrin. Puisque le Sanhedrin, il faut être Mousmach, et s'il dit qu'on ne peut pas commencer, ben c'est fichu. On n'aura plus jamais de Bedin Agadol. Donc toute la partie de la Torah qui parle du Bedin Agadol, du pouvoir du Bedin Agadol, ben, il n'y aura jamais de tribunal qui aura ce pouvoir-là. C'est fini. Si tu ne dis pas comme moi, dit Rambam, il dit qu'on peut recommencer. Or, dit Rambam, Akadosh Baruch Hu Ya'id, chez Yashuvu. Or, Akadosh Baruch Hu témoigne que on aura de nouveau le Sanhedrin et donc. Marqué Hashivtecha kevarishona v'yatzecha kevatechila. Vous reconnaissez ici le nosar de la Amida. Demande à Hachem de nous redonner les shoftim et les yoatsim comme c'était en son temps. Et le pasuk dit Ve'acharechen ikarelach irat tzedek. On parle d'Yerushalayim, on dit c'est seulement après cela qu'on aura de nouveau, quand on aura de nouveau des shoftim et des yoatsim, des conseillers, etc. Certains disent, le Gaon dit qu'il y a les shoftim, les juges, et puis il y a les rois, les yoatsim, c'est-à-dire les rois, les, ceux qui dirigent le peuple par le chorma. Et à ce moment-là, on dira à Yerushalayim qu'elle est Irat Sedek, la ville de la justice. On va voir, ça vient sur la suite. On va revenir. Alors je vous vois donc dit que ça reviendra. Mais Zeyeblisafek, Kasher Yarshir Hashem, Libot Bene Adam. Et quand est-ce que ça reviendra? Quand Akadosh Baruch Hu sera marchir le cœur des gens, c'est-à-dire il fera en sorte que le cœur des gens soit capable de recevoir la smicha, enfin, qui sont suffisamment avancés, suffisamment travaillés sur soi. Veyirbu bema'ase atov, et que les gens vont faire beaucoup de ma'asim tovim, de bonnes actions. Veytigdal tchukatam l'Hashem velu'utarato, et que leur désir d'Hashem, le désir de Torah, va grandir. Veytrabe yoshan, et leur droiture sera encore augmentée en quelque sorte. À ce moment-là, l'ifne boa Mashiach. Tout ça, c'est avant que ne vienne le Mashiach. Comme on le voit des psukim. Donc, on parle des temps messianiques. On était en train de parler des temps messianiques. Il nous décrit ici quel est l'état du clan Israël avant les temps messianiques. C'est impressionnant. Hein? Il faut que les cœurs des gens soient kshérim. Il faut qu'ils fassent beaucoup de massim tovim. Que le désir de s'approcher d'Hachem, le désir d'étudier la Torah, soit grandissent, il faut que les gens soient de plus en plus droits. Ça, c'est avant que vienne le Mashiach. Condition. Sur cette période-là, il est dit dans le Navi Amos, il dit, « Hine yamim baim neum Hashem Elohim, des jours viendront, parole d'Hashem Elohim, vishlachti rav ba'aretz, et j'enverrai une famine dans le pays. La famine sur la terre. L'orav la lechem. Pas une famine de pain. L'otsame la maïm. Pas la soif de l'eau. Ki im lishmoa et dvar Hashem. Mais avoir soif et faim d'écouter la parole d'Hashem. Évidemment, cette famine-là, elle va amener ribouille de Torah et de Chachamim jusqu'à, dit Rambam, jusqu'à la smicha. Ils puissent faire la smicha. Les gens vont développer plus de Torah, plus de droiture, etc., jusqu'à ce qu'on va pouvoir réinstaller, en fait, l'institution smicha. Qui a ziroukulam bechush, qui blit Torah en chaim, vein olam, vein binyan. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde verra concrètement que sans Torah, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de construction. Mais cette fin de Torah, ce n'est pas quelque chose qui est secondaire par rapport à la Torah. Mais la Torah, ni la Tfila d'ailleurs, ne sont pas possibles sans la fin, sans qu'on ait fin de Torah, fin de Tfila. Parce que qu'est-ce que c'est que la Tfila? Tfila, c'est Kriya B'Shem Hashem. Bon, c'est marqué sur Abraham, Vinu Vaikra B'Shem Hashem. Il a crié le nom d'Hashem. Pourquoi crier le nom d'Hashem? Ipne chez Midbonim Baolam, parce que on regarde le monde, on réfléchit, et on voit que Shoresh Kolmarin ou Arichuk Me Hashem, que la racine de tout le mal, c'est le fait d'être éloigné d'Hashem. Ceux qui sont capables de courir, c'est pas les plus rapides. Ceux qui sont capables de guérir, c'est pas les médecins. C'est pas les politiques qui peuvent réussir. Ha'olam mitpatel betsarotav be'ein Moshiach. Et le monde s'empêtre dans ses tsarot, dans les ennuis, parce qu'il n'y a pas de Moshiach, il n'y a pas de sauveur. Machaser, qu'est-ce qui manque? Il manque Chalut Shem Shamayim Ba'olam. Il manque qu'il y ait le nom divin dans le monde. Qu'on puisse crier le nom divin dans le monde. Au sujet de l'étude de la Torah, c'est évident que tout ce à quoi on peut arriver par l'étude de la Torah, on ne peut y arriver que s'il y a eu Amel, si on a fait des efforts, on s'est vraiment défoncé. Kefi arav le dvar Hashem, amkonen belev Adam. Exactement à la hauteur de cette soif, de cette faim de la parole d'Hashem qui existe dans le cœur de l'homme. Et qu'il est aussi clair, belimud mitor shigra, qu'en étudiant simplement comme ça, cool, écoutant les mitzvot anashim melumada, en faisant les mitzvot comme quelqu'un qui les fait automatiquement, c'est une deuxième nature, donc il fait les mitzvot sans s'investir. L'homme asigim baklum. On n'atteint à rien dans cette, par la Torah, si la Torah, on l'apprend de cette manière-là. L'ifne ba Mashiach, avant que ne vienne le Mashiach, c'est-à-dire dans cette période de Ikveta de Meshicha, Yitbarer le Ein Kol, tout le monde verra clairement. Mimalech inyane haolam atzmo, du fonctionnement du monde lui-même, Kibli Torah ubli Shem Hashem, Ein binyan ve'en chaim ba'olam. On verra que il y a rien qui se construit, il y a pas de vie réellement dans le monde. Ve'akara zu tavi l'idée itgalut haMashiach. Et cette reconnaissance là. Que sans Hachem, il n'y a rien, donc c'est une forme de reconnaissance d'Hachem, ça s'amènera à Mashiach. Bimot à Mashiach, t'es affaire à Kazou, le Teva et c'est l'Adam. Et au temps messianique, cette connaissance de que sans Hachem, sans la Torah, on ne peut rien faire, ça deviendra une nature de l'homme. La nature de l'homme à l'époque du Mashiach, ce sera ça. Cette connaissance que sans Torah, on ne peut rien faire.
Excusez-moi. Cette reconnaissance,
ça
concerne
Israël ou... A priori, ça concerne Israël. Il y a un Rambam Katav, Perek Tet, Milchot Tshuva. Le Rambam, dans le 9e Perek de Milchot Tshuva, il parle de ce qu'on appelle Siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel. Mishum ze, et il dit comme ça, ki mishum ze tzipu venitavu kol Israël. C'est pour cette siyata bishmaya, cette aide du ciel, que les bnei Israël, leurs prophètes, leurs sages, ils ont désiré être dans la qu'arrive la période de messianique. Pourquoi? Parce que alors on pourra s'occuper de Torah sans être dérangé. Les problèmes matériels sont réglés et donc on n'aura pas, on pourra s'adonner complètement à l'étude de la Torah. Et grâce à cette étude de la Torah, lit Rambam, va l'idée Torah yizku leolam haba. Et grâce à cette Torah, ils vont avoir le shrout d'avoir olam haba, le monde à venir. Il faut comprendre ce que Rambam dit là. Qu'est-ce que c'est que ce shrout là, ce mérite? On a dit au temps messianique, il n'y a pas de mérite. Ein shrout, ein chova. De quelle shrout est-ce qu'il parle ici? Allez, shrout, ce shrout-là, de Torah. On va atteindre un olam haba. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y en a pas de shrout à ce moment-là. Pour comprendre le Rambam, on peut utiliser un éclairage qui vient du Ramban. Le Ramban sur le Pasuk. Dans Parshat Nitzavim, le pasuk dit Umal Hashem Elokecha et Levavcha, etc. Hashem circoncira ton cœur. Donc on parle de la mila du cœur. Alors, là-dessus, le Ramban dit Zeu she'amru haba letaer mesayin oto. Ça, c'est ce qu'on a dit, que celui qui vient pour faire le bien, on l'aide. Mesayin oto, c'est si atad shmaya, ou l'aide du ciel. Aval limot ha-mashiach, tiyeh ha-bchira ha-batov lahem beteva. Mais au temps messianique, dit Ramban, le fait de choisir le tov, choisir le bien, ça, pour eux, ça sera naturel. Oui, il s'agit de comprendre ce que le Ramban est en train de nous dire là. Il ne dit pas que les gens feront obligatoirement le bien. Il dit qu'ils choisiront naturellement le bien. Mais ce sera encore un choix. Pas qu'ils ne sont pas réduit au rang de robots qui vont faire obligatoirement le bien. Il y aura un choix, mais le choix du bien sera naturel. Naturellement, on choisira le bien. Pour comprendre, il dit que même au temps messianique, il y aura une bechira. On choisira le bien. Alors, évidemment, le pasouk dit que, à cette époque-là, c'est marqué « Mala ha'aretz de'a et Hashem kamaim layam mechassim ». À cette époque, la terre sera pleine de la connaissance d'Hashem comme la mer est remplie d'eau, en quelque sorte. Bien entendu, on ne peut pas imaginer un seul instant que Umala Haaretz Dea, la terre sera pleine de Da'at, de discernement, d'intelligence. Da'at et Hashem, Kamaim Layam Chassim. On ne peut pas imaginer un seul instant que ça va se faire Mitoch Mitzvot Anashim Melumada. On ne va pas arriver à ça avec des mitzvot qui sont faites de façon automatique. Mitor shigra, par habitude. C'est pas shoot. Que sans rave le dat Hashem, le dvar Hashem, sans qu'il y ait une fin pour la parole d'Hashem. Alors, on verra rien dans la Torah. Si on n'a pas vraiment une fin, la Torah, elle ne nous dira rien du tout. מתוך שגרה ומלומדה אי אפשר בשום אופן להיות מלידה. Il ne peut pas y avoir du date, plein de dates, par suite de choses automatiques et de choses qui ne sont pas réfléchies, etc. L'habitude. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire ici Ramban? Ramban veut dire comme ça. Bimot HaMashiach, au temps messianique, Arav Ve'atsame, le Dvar Hashem sera naturel. C'est-à-dire, Shelo Yuchlu Lisbol Liot Betelim Me'atorah. Ils ne pourront pas supporter de ne pas s'occuper de Torah. Exactement comme la faim chez nous. Quand quelqu'un a faim, une faim de choses matérielles, une faim au sens ordinaire. Yefchar lanu leimana mimachal. Quand on a faim, ben, on ne peut pas se priver de nourriture. Ça devient, c'est naturel de manger, d'avoir envie de manger quand on a faim. La faim et la soif, le Dvar Hashem, d'où elles viennent d'abord cette soif et cette faim? Elle vient de l'Aïd Gabrut Hashanim Bechol Hashit Alfin Shnin. Toutes les années, dans les 6000 ans, on a développé ce désir d'étudier la Torah, et plein de gens ont développé ça. Loïd Batel Od, Mehamed Siyut, Gam Bevoa Mashiach. Et tout ce désir qui était là, il ne disparaîtra pas, même quand viendra le Mashiach. Au contraire, où il y a à faire le Teva. Le Teva Adam, Bimota Mashiach, le Olmead. Pour l'éternité, l'homme sera désireux, il aura envie d'étudier. Et il y aura en permanence devant lui cette connaissance, reconnaissance, que la vie et le monde sans la Torah, c'est une destruction, une mort. Et qu'on ne peut pas, sans la Torah, on ne peut pas. Exactement comme on ne peut pas sans manger, on ne pourra pas sans la Torah. Mais c'est un choix, on va choisir de manger. Alors, il dit, il est bien clair, on s'était demandé, mais d'où vient le srout, là, dont parle Rambam? Il dit, le srout du choix entre le bien et le mal, tel qu'il se fait dans la guerre contre les Tserara, ça, au temps messianique, ça n'existera plus, puisqu'il n'y a plus de bien et de mal. Donc, ce mérite-là, résultant du choix entre le bien et le mal, ça on ne l'aura plus. Par contre, le srous de la Torah, il sera toujours là. Parce que la Torah, elle ne va pas disparaître avec la disparition du Yetzer Hara. C'est ça le sod de la Siyata Dishmaya. C'est le principe de la Siyata Dishmaya, c'est-à-dire Abal et Taher. C'est celui qui vient être Taher. Alors on l'aide, Siyata Dishmaya, il aura l'aide du ciel. Les temps messianiques, c'est un temps de Siyata Dishmaya, c'est un temps d'aide du ciel. Et là, par définition, la Siyata Dishmaya, l'aide du ciel, c'est que Akeren Kayem et Leolam Abba. C'est-à-dire, en fait, l'aide du ciel, elle ne vient pas abolir le mérite. Alors, parce qu'Hachem m'a aidé à faire ce que j'ai à faire, ce que je devais faire, je l'ai fait. Mais d'une certaine manière, je n'ai pu le faire que parce qu'Hachem m'y a aidé. Hachem m'a aidé, ok, d'accord. Mais le fait qu'Hachem m'ait aidé, ici. Le fait que Kadosh Baruch Hu m'ait aidé, ça n'enlève pas le fait que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait la chose. Hachem m'a aidé, mais je l'ai faite la chose. J'ai fait ce qu'il fallait. Ça n'enlève pas le sroute. Hachem m'aide, on pourrait dire, voilà, il m'a aidé, alors du coup ça enlève tout le mérite parce que tu ne l'as pas fait tout seul. Quoi. Non. L'aide n'enlève pas le mérite. Hachem aide sans nous enlever. Hachem donne, mais il ne nous en prend rien. C'est toujours la même histoire. Quand quelqu'un donne, en général, il prend quelque chose. Mais là, il donne et il ne prend absolument rien. Le sroute reste entier.
Si j'aide ma fille à préparer son bac,
oui.
C'est elle qui aura le mérite de réussir son bac.
Oui, mais même si vous êtes en train de lui souffler pendant qu'elle fait le bac.
Non, si je l'aide à préparer.
Ah oui, à préparer seulement, mais là, il n'aide pas seulement à préparer, il aide à faire, à passer le bac. Oui. Vous êtes derrière l'oreillette. Oui, mais je vais. Cette notion de choisir le bien, ça reste un choix hein, au sens où la disparition du mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mal apparaît évidemment pour ce qu'il est.
Ah oui, d'accord.
Et donc, personne ne va le choisir.
Mais non, il n'y a pas de choix. Quel est l'autre choix?
Ah, mais ça s'appelle un choix dans le sens où, comme vous choisissez de faire les choses qui vous paraissent bonnes, d'accord, quand quelque chose, c'est évident que c'est ça que je vais choisir, bon, mais c'est un choix.
Il y a 100% de réussite.
Oui, il y a 100% de réussite.
Il n'y a plus de déviant.
Non, il n'y a personne qui va dévier parce que tout le monde est persuadé que c'est ça qu'il faut faire.
Sémantiquement, ça ne tient pas parce que si on dit qu'on choisit même naturellement le bien, dans le choix, il y a deux possibilités. Là, il y en a qu'une.
Non, il y a deux possibilités, mais, voilà. Mais quand vous êtes persuadé que c'est ça qu'il faut choisir. Vous choisissez.
J'ai entendu aussi que lorsque donc le Mashiach sera là, effectivement, l'humanité dans sa globalité reconnaîtra le Hachem, mais qu'il y en aura, il y aura certains qui vont vouloir étudier la Torah, et d'autres, non, ils n'étudient pas, ils ne feront pas.
Bon, c'est pas comme ça que c'est présenté.
Oui, peut-être que c'est pas formulé de cette façon-là, mais disons qu'il y a. Il est encore là, ici.
Non, parce que vous, ici, non, mais en fait, c'est pas tellement comme ça. Quand vous choisissez quelque chose parce que vous êtes persuadé que c'est pour votre bien et qu'il n'y a pas photo, comme on dit, mais quand il n'y a pas photo, mais il y avait un choix. Je choisis obligatoirement ça, mais ça s'appelle un choix.
Tous les hommes ne seront pas sur le même niveau.
Les Bnei Israël, ils devront choisir. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'étudier. Il ne faut pas le dire aux gens, parce que sinon ils ne voudront plus le Mashiach. Hein?
Oui, c'est-à-dire que le Yetzer Hara ne disparaît pas comme Yetzer, mais il disparaît comme évidence de foi.
Si vous voulez, si on doit servir Hachem avec les deux Yetzer, d'accord, ça veut dire que le Yetzer Hara, le côté mauvais qu'il y a dans les Yetzer, on ne le choisira plus.
Voilà, on ne le choisira plus.
Mais la paresse pour être dans la soukha de Rabbi Eliezer, on la gardera toujours.
D'accord.
Au début, on doit faire la guerre contre Yetzer Hara. On doit tenir le coup. Védiscote les Torah, et on doit accéder à la Torah, bien que les épreuves et les attaques du Yetzer Hara soient grandes. Et comme ça, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, on obtiendra cette fameuse siyata d'Ishmaïa, cette aide du ciel. Et avec cette aide du ciel, Sara Yetzer, le Yetzer Hara s'en va. Il s'en va au sens, il fait plus le poids, en quelque sorte. Nishar Arav, la Torah, Teva Adam. Donc le désir de Torah devient la nature de l'homme. Azu Metsape ou Mitave le Margoa, chez Yemota Mashiach. À ce moment-là, l'homme désire la tranquillité, la sérénité qui lui permettra d'étudier la Torah et de grandir dans la Torah, de se consacrer uniquement à la Torah. Shiuchal la sokba Torah bli pega ou mafrim klal ou klal. Il ne se passera rien de négatif, rien ne le dérangera dans son étude de la Torah. En fait, le Rambam, il dit, quand il a dit que c'est pour ça, pour cette capacité d'étudier la Torah, etc., au calme, que tout Israël, ses prophètes et ses sages, désireront les temps messianiques. Pourquoi ? Oui. C'est eux, ils voudront les temps messianiques. Parce que eux, ils ont vaincu, ils ont réussi dans leur guerre contre les Tsara, ils ont réussi à vaincre les Tsara. Et donc, ils sont arrivés à ce haut niveau. Leur cœur est vide de toute mauvaise pensée, donc ils peuvent recevoir pleinement la Torah, si on parle comme ça. Et eux, ils désirent et ils ont raison. Et ils sont en quelque sorte autorisés à désirer le Mashiach. Mais le commun des mortels, qui n'a pas fini avec la guerre contre les Yetzer Hara, lorsque eux, ils ont envie des temps messianiques, eux, c'est pas pour cette raison-là qu'ils veulent. Eux, ils veulent les temps messianiques parce qu'ils sont trop faibles pour faire la guerre contre les Yetzer Hara. Et s'imaginent que les Yetzer Hara va résoudre leurs problèmes. Les temps messianiques, le Mashiach va résoudre leurs problèmes. Or, c'est pas son job, au Mashiach. Et donc, au temps messianique, même après Triat HaMetim, il y a de la Torah. Parce que sans Torah, il n'y a pas de période dans le monde qui soit sans Torah. Sans Torah, il n'y a plus de monde. C'est ça la grandeur de la Torah. C'est justement que la Torah qui appartient au temps messianique, elle est de la Torah, quand est-ce qu'elle est à l'aise, quand est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle doit être, c'est au temps messianique, évidemment. Mais malgré cela, donc, Adam Harishon, si, d'abord comme ça, avant de dire malgré ça, Adam Harishon, s'il avait effectivement tenu le coup dans son épreuve, sorti les temps messianiques, et à ce moment-là, on lui aurait donné la Torah. On s'est posé la question, qu'est-ce que la Torah ? Mais c'est ça, le lieu normal de la Torah, ce sont les temps messianiques. Parce que là-bas, on peut vraiment s'occuper de Torah, c'est-à-dire monter grâce à la Torah, pas pour résoudre les problèmes du Yetzer Hara, mais c'est la parole d'Hachem, c'est s'approcher d'Hachem de plus en plus grâce à la Torah. Parce que grâce à la parole d'Hachem, on va avoir en bouche la parole d'Hachem, en fait. Malgré tout, les gens qui n'ont pas réglé le problème, enfin, c'est-à-dire les, durant les 6000 ans, quasiment, où on a affaire au Yetzirah, la faute, la guerre contre le Yetzirah, etc., on ne peut pas non plus se débrouiller sans Torah. Donc, on a vu, le Yetzirah, il mène à la Torah, comme on l'avait vu. Le bitoul du Yetzirah, lorsque on annule le Yetzirah, de la manière dont on a parlé, c'est de nouveau le sroud de la Torah qui est là, de nouveau, et dans tous les mondes, et la nouvelle Torah. Dans tous les mondes, il n'y a que la Torah. Et finalement, la différence entre les mondes, c'est dans la fin pour la Torah. Dans le degré de la fin qu'on a de Torah. Dans ce monde-ci, ben, cette fin pour la Torah, c'est entièrement dépendant de la Bechira, de la compréhension de l'homme dans la lutte contre le Yetzirah. Qu'il sache que le Yetzirah n'est finalement que ce vide en l'homme, qui est, ce vide est là pour être comblé par la Torah. Dans l'Ikvita de Meshicha, cette fin, comme on l'a dit, pour la Torah va grandir. Pourquoi ? Parce que dans cette période-là, le mal, on verra que le mal n'était rien, quoi, qu'il a rien à offrir, en fait. Et au temps messianique, cette fin pour la Torah deviendra une nature. Donc Adam Harishon, tout ça on a appris de ce piyout là, qu'Adam Harishon, s'il avait résisté, il aurait donc été dans une situation d'après Triat HaMetim, la Torah aurait été d'accord d'aller chez lui, il y aurait eu une Kabbalat à Torah, il aurait accepté la Torah. Ça veut dire que même cette situation-là, sans Torah, c'est rien du tout. Dafka az ayat sarich liyot matan Torah. Le vrai matan Torah, c'est au moment où effectivement Adam Harishon aurait résisté, alors il aurait reçu la Torah, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme de s'élever au plus haut. Mais nous, dans la situation où on choisit vraiment, dans les nishyonotes, on a des épreuves, de savoir si on va devenir meurtrier, si on va devenir violeur, voleur, menteur, etc. Là, on a besoin de la Torah, parce que sans ça, on ne peut pas faire façon, on ne peut rien faire avec les Yetzirah. Il ne peut pas jouer son... Il ne peut pas nous servir à servir Hachem. Ce qu'il est vraiment complètement mauvais. Il faut le traiter avec les épices. Et les épices, c'est la Torah. Donc ça veut dire que le Matan Torah d'Ebnei Israël, d'une certaine manière, Matan Torah, c'est les temps messianiques. Pendant ce don de la Torah, c'est les temps messianiques. Puisque effectivement, quand ils ont reçu la Torah, Pascha Zohamatan, la trace de la faute de Chava avec le serpent s'est effacée, etc. Donc, il y a, pendant quelques moments, au moment de Matan Torah, il y a eu le bitoul du Yetzer. Le Yetzer a été annulé au sens où on l'a dit. Comme le Ramban l'a dit sur les temps messianiques. Et avant Kabbalat HaTorah, il y a eu ce temps qui s'appelle Ikveta de Meshicha, les pas du Mashiach, on entend les pas du Mashiach, c'est en train de venir, c'est-à-dire une faim et une soif de Torah, au point que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont dit « Kol Asher Diber Hashem Na'aseh V'Nishma ». Ok, il y avait tellement une soif, qu'Hachem parle, on fera. Rabbeinu Yonah, il dit, dans la Mishnah qui dit, il parle de Ma'asav Merubim Mechochmato, que celui dont les actes sont plus nombreux, plus importants que la Chochma, que la sagesse. Alors, Rabbeinu Yonah demande, mais comment c'est possible de faire plus que ce qu'on sait? Et il répond qu'il s'agit ici de la Kabbalat HaMa'asim. C'est de l'acceptation des actions. On n'a pas encore fait, mais j'accepte de faire. C'est ça, en fait. On est prêt à faire. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il faudra faire, mais je suis prêt à faire. Là-dessus, Rabbi Yocham pose une question, il dit, mais comment on peut accepter de faire des choses dont on ne sait pas ce qu'elles sont? Tu acceptes comment? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils ont dit Naase Venishma, mais Naase quoi? Si tu ne sais pas ce que c'est, comment tu vas faire? Et comment, même si on dit qu'ils n'ont pas fait, mais ils ont accepté de faire, mais ils ont accepté de faire quoi? Il dit ça, ça vient de cette soif de la parole d'Hachem. Grâce ou à cause du galout de Mitzrayim et de la Geoula et de la sortie d'Égypte, la Geoula, on sait que c'est Kabbalat HaTorah, il y avait une faim, une soif, le Dvar Hashem, finalement. Les Ekiblou et la Torah Akdosha, donc ils ont accepté la Torah. Par faim, par soif, n'importe quoi. Ou Becher Ze ou Amealech, Vazé Sauvé Voler Kol Tsir Abria. Il dit, on est obligé de dire que c'est ça le processus. C'est toute la création, elle tourne autour de, sur ce pivot-là, en quelque sorte. Shenedal Leavin, Mitoch Yitzreinu et Araav, le Dvar Hashem. Il faut, à partir de notre Yetzerara, comprendre la fin pour la parole d'Hachem. Il faut, à partir de ce que le Yetzerara nous suggère, nous offre, etc., le Yetzerara, il nous attaque toujours sur les points importants. Oui. Ou si c'est des points inimportants, qui ne sont pas importants, c'est pour établir la fameuse dynamique de Avera Goret Avera. C'est plus facile d'amener à une Avera si on crée un climat d'Avera. Et donc, si on regarde quelle Avera le Yetzara nous propose, alors on aura une idée de ce désir de Torah, cette fin de Torah, que nous avons, puisque c'est le point principal, il faudrait arriver à partir de là à savoir, mais alors, de quel ordre exactement le désir de Torah qu'il y a chez nous. Si on considère qu'il y a une gradation des Averot, d'accord. Alors, si le Yetzara me propose des Averot super hautes, c'est d'une certaine manière que ça correspond un désir très très fort de Torah. Donc à la limite, celui qui a des désirs, d'après ça, après cette explication, les sollicitations du Yetzera sont élevées, sont fortes, plus c'est révélateur d'un fort désir de Torah. Oui, plus c'est mauvais. Plus c'est mauvais, c'est-à-dire, à la limite, le meurtre, le désir de meurtre, disons que le meurtre ou l'idolâtrie, c'est au top. C'est le top. Donc si le Yetzara, il me pousse vers l'idolâtrie, et que je considère l'idolâtrie, ça veut dire qu'il y a il y a un désir de Torah qui est extrêmement fort.
C'est très troublant parce que l'individu, quand il vit cette situation-là, il se considère comme un manqueur.
Comme, il est à moins que rien.
Parce que
je le rassure.
D'un autre côté, il dit voilà, je suis là, j'essaye d'étudier, j'ai compris la grandeur, etc., de cette sagesse, j'essaye de faire ce que je peux, mais par contre, à un côté, j'ai des désirs complètement cinglés, etc. C'est
marqué Kol Agadol Mechavero Yitzro Gadol Emeno.
Oui, je sais.
Plus quelqu'un est grand, plus son Yitzhara est grand.
C'est très difficile
à dire ça. Abaye, vous connaissez l'histoire,
oui.
D'Abaye.
Oui. Quoi,
Abaye, il a entendu un soir, il a entendu d'un homme et une femme qui disaient ah ben demain, l'un disait à l'autre, ben demain on va se retrouver sur la même route, on prend la même route pour un bout de chemin. Là-bas, il a entendu que cet homme et cette femme, là, ils allaient se balader tout seuls sur la route en question. Il s'est dit, je vais les suivre et je vais les empêcher de faire une avéra. Alors, il les a suivis. Et puis au bout d'un moment, ils sont arrivés à un embranchement. Et ils se sont dit, bon, voilà, c'était très sympa. Mais maintenant, nos chemins vont diverger. Salut. L'Agma a dit qu'Abaye est rentré chez lui, il s'est mis contre le chambranle de la porte et il s'est mis à pleurer. C'est marqué qu'il y a un vieillard, on a eu un avis probablement qui a passé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, si moi j'avais été à la place du type, j'aurais jamais laissé partir la fille. Et alors Elioanavi lui a dit, effectivement, parce que tu es beaucoup plus grand, donc ton Yetzara était beaucoup plus fort. On était beaucoup plus fort. Le...
C'était pas pour le calmer.
Quoi?
C'était pas pour...
Non, c'est lié à un avis. Ce ne serait pas dans la Gemara si c'était seulement pour le calmer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle donne des noms. Hein. C'est Abaye, c'est... On ne dit pas qui c'est. C'est pas n'importe qui, c'est la crème de la crème. Et bien, lui, il ne savait pas que... C'est que c'est même pas... C'est pas proportionnel. Bon, si t'es un grand professionnel, t'es plus grand, proportionnel, c'est... Non, c'est... Je sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, c'est pas proportionnel. Mais probablement qu'on a aussi les forces pour vaincre cette etc. Non, c'est quelqu'un qui est surdimensionné, quoi.
Son étude de se rapprocher de Hachem. Bon, voilà. Est-ce qu'il aurait pu être le cas de Adam s'il n'avait pas fauté? Qui sera celui de l'humanité ou des bénis Israël lorsque Mashiach sera là? Alors qu'est-ce qu'on fait avec Olam Haba, puisque ce que j'avais perçu, c'est que Olam Haba, c'est là le peut-être ce travail, que ce travail peut.
Ce que le Rambam m'a dit. Que grâce à cette Torah-là, on accédera à Olam Haba.
Oui, mais là, vous avez parlé du Mashiach qui vient sur Terre et qui permettra à ceux, même après Kiryat HaMetim, qui permettra à ceux qui veulent étudier, d'étudier. Donc la Torah a encore, bien entendu, ici son rôle,
oui.
Puisqu'elle permet
de s'élever, et c'est ça qui va nous amener à Olam Haba.
Mais il n'y a plus de différence entre, en fait, la vie, quelque part, si ce n'est peut-être la présence de corps.
Ça, c'est Olam Haba, c'est un monde de la jouissance. Là, on n'est pas encore dans le monde de la jouissance, c'est dans le monde du travail encore. Il faudra étudier. Autant messianique, on va pouvoir étudier en paix, mais on va pouvoir étudier, il faudra étudier. Dans Olam Haba, on n'étudie pas, on va jouir seulement. C'est la jouissance de Meziva Shrina, de Klala. Peut-être que la jouissance de la présence divine, elle se fait en regardant dans la Gemara et en prenant dans la Torah, On va regarder dans la Torah et on va voir l'éclat de la présence divine dans la Torah. Donc ils vont peut-être et continuer d'étudier, mais comme jouissance. Quoi. Oui. Je sais pas. Ça, je... C'est pas écrit, donc je sais pas.
Donc ça veut dire que l'ère messianique, c'est pas du tout un produit pour garder la vie.
Non, pas encore. Gan Eden, c'est Olam Haba. Enfin, c'est quelques mots là-bas. Non, l'ère messianique, c'est. On vivra normalement dans l'ère messianique. Simplement, les problèmes sont réglés, on pourra se consacrer à l'étude. On devra se consacrer à l'étude, puisqu'on pourra. Tu Mais peux, donc tu dois.
C'est une période qui est vouée à être pérenne, ou bon, ça va durer.
Non, ça durera un certain temps, comme dirait l'autre.
Mais c'est pas.
Il y en a qui disent, il y aura.